Bon, moi j'aurais une première réaction dans ce que j'ai vu qui se passait dans l'établissement où on regarde l'artiste et puis à la fois l'enseignant d'art plastique qui parle aussi de son métier et de l'intervention du plasticien. C'est la notion de performance. On a l'impression que l'artiste avec les enfants, il fait une performance. Hein, il ne pourrait pas tenir 18 heures par semaine comme ça parce qu'il y a un engagement personnel qui est fort. Et à travers ce que tu as montré du déluge, on a l'impression aussi que c'est de l'ordre de la performance. Mais comment les enseignants tiennent dans ce métier? Parce que je trouve que c'est, tel que c'est présenté, c'est d'une densité. Et on n'imagine pas cet enseignant d'art plastique, comme tu le disais au début, qu'il y a X classes, X élèves, comment il arrive à remobiliser toute cette...
Ah, c'est... Oui, c'est un... Bon, là, si tu me lances là-dessus, je peux tenir la semaine. Non, effectivement, c'est, j'allais dire, c'est presque des athlètes de haut niveau, quoi. C'est un métier extrêmement fatigant. De mémoire, moi, je n'ai jamais vu un enseignant d'art plastique assis. C'est pour ça que je fais ce job maintenant, parce que moi, je me repose un peu. Mais non, c'est extrêmement éprouvant et ils le disent tous. Hein, l'une des compétences qui n'est jamais reconnue, c'est qu'il faut tenir au travail. Il faut tenir, il faut assurer classe par classe, journée par journée. Il faut assurer donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a deux grands cas de figure hein, dans les études que j'ai menées sur quand même une belle population de collègues. On va dire qu'il y a des Il y a ceux qui vont être partout, qui vont représenter, parce qu'ils sont, en plus ils portent leur discipline, bien souvent ils sont seuls. Donc ils vont être partout, pour avoir des crédits, pour avoir des moyens, pour avoir des accompagnateurs, donc ils sont partout, conseil d'administration, etc. Ils montent tous les projets, ils sont dans tous les coups, ils sont profs principaux, etc. Et donc ça leur permet d'avoir du matériel, ça leur permet d'avoir une reconnaissance, une place institutionnelle. Et donc on va dire qu'ils s'épuisent aussi un petit peu plus que les autres, encore plus. Mais néanmoins, quand on parlait de justement d'effets en retour, ça leur permet aussi de porter. Bah oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore réellement passionnés par ce boulot, parce que c'est aussi cette grande part de liberté qui leur est permise hein, et qui est finalement le sel de ce boulot, qui est la grande difficulté, puisqu'on est inventeur de tout, mais qui en même temps est la grande magie quoi finalement. Eux le disent, nous on est des profs à part. Hein. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Je crois que pratiquement tous les profs de toutes les disciplines disent qu'ils sont pas comme les autres. Mais voilà. Et d'un autre côté, donc il y a pas mal de collègues hein, qui, très malheureusement, et c'est ce que je disais aussi, les effets en retour, ils peuvent être très néfastes. C'est qu'effectivement, devant la difficulté de l'enchaînement, de ces contraintes, de ces multiples événements à gérer sans arrêt, et puis derrière ta question, finalement, ce qui est sous-tendu, c'est que ça paraît extrêmement simple de concevoir des choses comme il y a devant à Marseille ou le déluge, mais c'est extrêmement expert. Parce que de là va dépendre non seulement la motivation des élèves, va dépendre le déclencheur. Est-ce que ça met en mouvement? Est-ce que ça vous fait passer à l'activité? Qu'est-ce qu'il faut en plus ou qu'est-ce qui manque? Et ça, c'est bien ça la difficulté dans la formation, alors là, qui est mon job maintenant. C'est comment on fait pour apprendre ça? Parce que c'est ça qui est à la fois le garant du moteur, du dynamisme, mais aussi, j'allais dire, du seul moment, parce qu'une fois que la classe est en route, c'est le seul moment où on peut avoir un tout petit laps de latitude pour un tout petit peu souffler. Mais par contre, si ça ne marche pas, c'est une catastrophe. Parce qu'on l'a vu, c'est vraiment des pratiques à risque. Vous avez 30 Indiens dans la classe qui sortent, si vous avez fait peinture, vous n'avez pas maîtrisé le truc, quoi. Vous avez 10 parents qui portent plainte parce que le Norak Nike est plein d'encre de Chine, quoi, vous voyez, ou tailladé au cutter. C'est quand même ça, un cours d'art plastique. Hein. Donc, ça demande une grande maîtrise professionnelle pour pouvoir à la fois s'économiser un tout petit peu. Et si on n'y arrive pas, eh bien c'est vite la catastrophe. Et on a beaucoup de collègues dont on pourrait dire qu'ils sont, oui, placardisés. Hein, parce que je vous rappelle, au cas où vous n'en souvenez pas, souvent une classe d'art plastique, comme musique, EPS aussi un petit peu, hein, on est souvent au fond des cours, vous savez, au dernier étage, sans ascenseur, machin comme ça. Et donc si ça se passe mal, eh bien souvent on est seul. Et il y a des collègues qui vont très très mal. Très très mal. Moi, il m'a été donné d'animer 2 ans d'affilée tous les bassins de l'Académie d'Aix-Marseille. C'est là que j'ai pris conscience de l'étendue des dégâts. Je rajouterai que la santé au travail est l'une de nos préoccupations dans l'ergonomie de l'activité des professionnels.
Bien, on a le temps de 3 questions.
Oui, Tu as défini tout à l'heure une posture de l'enseignant d'art plastique avec ses trois dimensions, en quelque sorte, avec une dimension de pratique. C'est un praticien, donc il est artiste. C'est un pédagogue, il transmet, et c'est aussi un spécialiste de sciences humaines, donc avec des savoirs référés. Et ce que j'aimerais, et donc la relation qui s'instaure au sein de la classe entre ces trois dimensions de l'enseignant et donc le déroulement du cours d'art plastique, tu l'as exposé clairement. Moi, je voudrais savoir comment tu imagines, par exemple, la relation entre cet individu-là, trois dimensions, professeur d'art plastique, et l'artiste qui intervient. Donc, qu'est-ce qui est mobilisé du point de vue de l'enseignant pour que cette rencontre s'établisse, donc dans une séquence d'éducation artistique et culturelle? Est-ce que c'est la dimension de l'artiste? Est-ce que c'est la dimension du pédagogue? Est-ce que c'est la dimension du spécialiste en sciences humaines? C'est un paramètre nouveau qui intervient dans la classe par rapport au schéma que tu as présenté tout à l'heure, me semble-t-il.
Je ne sais pas si c'est vraiment un élément nouveau, mais moi, ce qui me paraît prépondérant, c'est que, encore une fois, s'il n'y a pas si c'est pas le travail de l'élève qui permet de comprendre justement les contenus qui sont cachés à la fois derrière le travail de l'artiste ou les intentions peut-être didactiques de l'enseignant, il n'y a pas de solution, il n'y aura pas de rencontre possible. Et alors, moi, dans les situations que j'ai vues plutôt réussies, on pourrait dire, c'est que, ce milieu, quand je dis milieu, c'est vraiment un milieu conçu comme une espèce de porosité d'échange. Un milieu, c'est celui sur lequel on va agir, mais qui, du coup, étant modifié, réagit aussi sur nous en retour. Évidemment, c'est ce qu'on appelle le développement. Au fur et à mesure, ça va se croître. Donc, des situations de rencontre avec des artistes, à mon sens, soit c'est une vraie surprise. Et après, on va réfléchir à ce qu'on a vu, à ce qui a été fait, on va travailler avec lui, ou soit c'est préparé aussi en amont, et les élèves vont pouvoir s'emparer. Enfin, encore une fois, si les élèves ne passent pas par leur expérience plastique en regard de ce qu'ils voient et ce qu'ils apprennent, il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Et par ce jeu-là, je dirais, il y a une dimension que j'ai oubliée tout à l'heure dans le système des flèches et des questions-réponses, là, c'est que par ces questions-là aussi qu'on pose, soit aux artistes, soit qu'on, par l'intermédiaire d'œuvres projetées ou autres, c'est que les élèves, au fur et à mesure, décantent et cernent l'intention didactique du professeur. C'est là qu'on se dit, mais pourquoi cette contrainte de ici et maintenant ? Ah ben oui, ben, dans l'histoire de l'art et dans les pratiques, ça s'appelle le in situ. Et le in situ, par exemple, ça a des vertus particulières ou des contraintes particulières, etc. Et donc, à mon sens, moi, j'ai jamais... et c'est pas du tout une critique. J'ai des plasticiens partout autour de moi. C'est une espèce que je fréquente assidûment. Être artiste, a priori, ne suffit pas pour avoir une vertu particulière à intervenir auprès des élèves. Je sais que ça peut paraître grossier, ce que je dis, mais... Et puis, j'allais dire encore une grossièreté, mais après tout, qui les définit en tant qu'artiste ? On peut s'autoproclamer, je veux dire, c'est bon. Pour moi, c'est une pratique plastique, ou musicale, ou théâtrale, etc., qui a ses vertus en tant que telle, parce que c'est une pratique, justement. C'est une mise en vision d'une expérience, une mise à la vue des autres d'une expérience, qui donc peut être questionnée, interrogée, pourquoi pas décortiquée, j'en sais rien, pour la mettre à la portée des élèves. Mais après, je veux dire, il n'y a que l'histoire qui va pouvoir nous dire, faire tamis finalement. Mais a priori, il n'y a pas plus un tel artiste qu'un autre.
Non, c'était pas tout à fait le sens de ma question, c'était sur la complémentarité des rôles au moment de la rencontre. C'est une chose. On a vu qu'elle était très importante pour que, effectivement, dans le cas d'une résidence d'artiste ou dans d'autres situations plus ponctuelles, c'est sur la complémentarité.
Moi, personnellement, ouais. Je n'ai jamais testé de résidence d'artiste. Je travaille dans un quartier trop chaud pour qu'ils s'y viennent. Non, c'est une plaisanterie.
Mais ponctuellement, ils interviennent aussi, y compris dans les quartiers nord.
Je ne sais pas.
Si.
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas cette expérience-là de la résidence d'artiste. Je sais pas.
Non, c'était, justement, c'était cette complémentarité des rôles et le fait que le plasticien soit aussi quelque part un artiste. Bon, voilà, c'était cet aspect-là que je voulais t'amener à développer, mais manifestement non. Ouais.
Bonjour, je voudrais vous parler de quelque chose d'un petit peu martien. C'est la communication entre le premier et le second degré. Mmh. Là, j'ai l'impression d'être une espèce de grenouille orange au milieu de la mare, parce que moi, je suis dans le premier degré. Mmh. Alors, ce professeur d'art plastique, je le trouve absolument extraordinaire, mais je voudrais vous parler d'un autre professeur. C'est le professeur des écoles, qui n'est pas un artiste, qui n'est pas non plus spécialisé en art plastique, qui d'ailleurs doit donner des cours d'art visuel.
Tout à fait.
Nous, dans le premier degré, voilà, on pourrait peut-être parler de cette différence. Et puis surtout, faire penser à tous ces professeurs du second degré que l'élève qu'il a en face de lui, à partir de la sixième, n'est vierge de rien. Il a fait des tas de choses avant.
Tout à fait.
Il fait beaucoup d'art à l'école. Nous travaillons avec des artistes, nous avons des classes à Pâques. Et donc, comment faire avec, avec ce professeur du premier degré qui fait ce qu'il peut, hein, puisqu'il doit aussi faire du français, des mathématiques, avec des heures peut-être élastiques en comparaison de ces fameuses 55 minutes, mais qui en fait sont tellement élastiques qu'au bout du compte, il n'y en a plus beaucoup, parce qu'on fait le reste. Vous savez, ces apprentissages fondamentaux qu'il faut absolument mettre en avant. Et donc on va demander au professeur des écoles de ne surtout pas faire d'art, ou du moins il ne peut plus se laisser la part de le faire. Voilà, je voudrais juste ouvrir un petit peu par là.
Oui, mais vous avez tout à fait raison. Enfin, l'an dernier, on a organisé, justement, je parlais des stages de bassin, là, sur la relation justement primaire-secondaire, notamment donc art visuel, art plastique. Et moi, en tant que responsable de formation, je suis très préoccupée par ça, parce que effectivement, alors d'un côté, on a de très belles prescriptions, ce qui ouvre sur le parcours artistique et culturel. D'un autre côté, je vous signale que pour les futurs PE, c'est 12 heures de formation cette année. 12 heures. Pour toute leur formation en art visuel. Et je n'y suis pour rien, je vous dis, c'est pas moi qui ai choisi. Enfin voilà, donc il y a deux poids, deux mesures, quelque part. Et puis effectivement, on pourrait ouvrir le débat très longuement, mais moi, pour avoir participé aussi à la formation des professeurs des écoles quand je suis arrivée dans ce qui était l'UFM, Je crois que notre seul planche de salut, c'est d'arriver à trouver des situations suffisamment riches. Reprendre Déluge, c'est facile, c'est des sixièmes. Mais pourquoi ? Parce que c'est autant le moment de travailler la langue que de travailler, travailler sur du vocabulaire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait là ? Chaque fois, on met à jour des registres de vocabulaire qu'on va enrichir ou re-questionner selon les contextes. Et la grande chance du primaire, c'est la polyvalence. Qu'on travaille sur l'histoire, qu'on travaille... Et moi, je me suis toujours battue pour qu'on ait des moments vraiment clés dans la formation où on puisse interroger les mêmes objets sous différentes latitudes, j'allais dire différents regards disciplinaires. Mais ce que je trouve... Alors, vous dites... bien sûr, les élèves, en arrivant au collège, sont riches d'un tas d'expériences. Et justement, des situations aussi simples que celles qu'on a vues leur permettent finalement de reprendre un fil avec des petites choses qu'ils savent. Assembler trois bouts de scotch, peut-être réactiver une comptine, des images de livres. On a tout un tas d'éléments qu'on peut réactiver sans arrêt et très facilement. Dans notre académie, par exemple, je ne lis pas trop fort parce que on est loin de pratiquer les arts visuels dans toutes les écoles avec brio, je vais le dire. C'est pas toujours très glorieux. Donc certains arrivent assez vierges, on va dire. On est relativement tranquille là-dessus. C'est assez désolant. Il faut impérativement que les équipes éducatives CM2 6e arrivent à travailler ces objets-là, surtout avec les ressources, à travailler les ressources locales justement et des parcours privilégié avec ce qu'on a autour de nous, ça c'est sûr. Mais je sais plus qui c'est qui le disait ce matin, mais c'est vrai que ça peut être très modeste, mais extrêmement riche aussi. Ouais.